Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien qui s'intéresse aujourd'hui au projet d'attribution des blocs pétroliers et gaziers en RDC. Quels sont les avis des acteurs de la société civile environnementale? Nous débattons de ces sujets avec deux invités. Il s'agit d'Emmanuel Moustouyou, il est coordonnateur de la société civile pour le suivi des réformes et l'action publique, Courap en sigle. Il sera avec nous d'un moment à l'autre. Et puis, M. Olivier Ndoole, il est membre de l'ACDH Goma. Un autre invité, il est au téléphone. M. Olivier, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Tati Makoukou vous présente ce numéro sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Christelle Fitif assure la réalisation de ce numéro et Jean-Noël Mokondo s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de votre magazine de la vie au quotidien au Capu Service.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Merci de rester à l'écoute de Radio Capi, la fréquence de la paix. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé officiellement 30 appels d'offres, dont 27 pour des blocs pétroliers et 3 pour des blocs gaziers du lac Kivu à Kinshasa le 28 juillet dernier. La publication de ces appels d'offres divise les acteurs de la société civile au sujet des études d'impact environnementaux et des incidents écologiques pouvant être causées par l'exploration et l'exploitation de ces ressources fossiles. Quelles sont les raisons qui justifient les rejets de ces projets par nombre d'acteurs de la société civile environnementale? Nous allons en parler dans cette tranche d'Okapi Service avec nos deux invités. Nous allons commencer par Monsieur Olivier Ndoole, il est membre de l'ACDH Goma. Monsieur Olivier, bonjour.
Journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Enfin, les appels d'offres ont été publiés le 28 juillet dernier par le président de la République. Et quelle est votre réaction en chaud sur la publication de ces appels d'offres?
Bien évidemment, nous n'avons jamais changé d'avis et nous avons dit non seulement au président de la République, mais aussi à l'opinion publique congolaise comme l'opinion publique internationale pour démontrer notre désapprobation par rapport non seulement la démarche, mais aussi par rapport même à ce que nous pouvons appeler comme une contradiction par rapport à l'option politique prônée par le chef de l'État. Et donc, nous estimons jusque-là que le président de la République pourra revenir à la raison parce que c'est le fait qu'il y ait toutes ces publications, ça va en contradiction avec sa politique qui voudrait faire de la RDC un pays solution par rapport aux urgences climatiques. Mais aussi, au-delà de cela, les procédures ont été attachées de certaines irrégularités qui arrêtent non seulement la légalité au niveau interne, c'est-à-dire les lois de la République, tout comme la convention au niveau international, mais également aussi, vous trouverez que la population qui a la légitimité et la souveraineté primaire n'a pas été suffisamment consultée comme la politique du peuple voudrait à ce que les choses puissent marcher. C'est pour ces raisons-là, les raisons de droit, des raisons, si vous voulez, écologiques, de justice environnementale, mais aussi des raisons de sauvegarde sociale qui nous ont poussé à ce que nous puissions émettre cet avis-là pour solliciter du président de la République de revoir cette démarche.
Mais dites-nous, Monsieur Olivier, quels sont les préalables qui devraient être réunis avant que l'on puisse publier ces appels d'offres, d'après vous?
Bien évidemment, je pense que d'abord c'est le fondamental qui nous pousse d'abord à réagir et appeler au président de la République de stopper, si vous voulez, ce processus. Comme vous le savez, le président de la République et même le gouvernement congolais voudraient faire de la République démocratique du Congo un pays solution. On ne peut pas à la fois vouloir être un pays solution en matière de questions de justice climatique et au même moment vouloir investir dans les fossiles. Ce sont des choses qui sont diamétralement opposées, qui sont en contradiction. Au-delà de cela, comme vous le savez, la loi sur les hydrocarbures, à son article 155, interdit déjà toute exploitation ou même toute exploration des fossiles de pétrole dans les aires protégées. Et quand vous voyez l'énumération des blocs pétroliers, quand je prends par exemple le bloc 5, quand je prends le bloc Upemba, c'est vraiment situé dans le parc naturel de Virunga qui est une aire protégée. Et si et seulement si on soumettait à une procédure qui pourra ouvrir la porte, si vous voulez, à des concessions pétrolières, sûrement que cela viole les lois par rapport à cet aspect, par exemple, de la loi sur les hydrocarbures. Ce n'est pas seulement cette loi-là, mais si vous allez même au niveau des dispositions de la loi sur la conservation de la nature, notamment les articles 20, 21 et même 74, c'est purement interdit ce genre d'activité dans les aires protégées. Il n'y a pas seulement cela, mais aussi notre inquiétude, comme non seulement organisation de la société civile environnementale, notre inquiétude c'est par rapport, si vous voulez, à la biodiversité qui se retrouverait dans ces blocs qui sont situés non seulement dans des domaines de nature à préserver la justice climatique pour les Congolais, mais aussi par rapport à des concessions foncières acquises sur des droits, si vous voulez, des droits coutumiers des communautés locales. Parce que quand vous prenez, par exemple, le bloc 5 et 4, c'est presque, si vous voulez, tu prends tout Beni, tu prends tout Rutshuru, y compris le lac Édouard qui constitue la source principale pour le droit à l'alimentation pour toutes ces communautés. Et le droit, si vous voulez, aux pêches, et le droit aussi, si vous voulez, à l'accès même à l'eau. Donc, et c'est presque toute la vie qui sera impactée par rapport à toutes ces questions-là.
Oui, mais monsieur Olivier, s'il vous plaît, oui. Monsieur Olivier, le chef de l'État l'a bien souligné dans son intervention lors du lancement officiel de ces 30 appels d'offres, dont 27 pour les blocs pétroliers et 3 pour les blocs gaziers, que toutes ces activités seront réalisées sous le respect des normes environnementales. Il a bien souligné.
Je crois que c'est un discours politique, mais dans le fait, parce que le bloc, quand on parle d'un bloc pétrolier, il s'agit d'une zone déterminée de manière très simple, parce que aussi cette émission est aussi moi comme paysan, si vous voulez, du Nord Kivu, je voudrais au même moment profiter de cette occasion pour donner la vraie information au public, la vraie information à ces communautés locales qui se posent des questions, des fois quand on discute des questions sur les blocs. Les blocs ne sont pas superposés dans l'air. Les blocs sont situés sur des terres, sur les sols
qui appartiennent à des communautés.
Exploités, utilisés par des communautés, mais aussi sur ces mêmes terres, il y a les aires protégées. Et donc, quand on discute de cette question, si vous voulez, des blocs pétroliers, on ne doit pas voir, si vous voulez, tellement l'impact en termes d'environnement. Parce que j'ai attendu comme vous par le ministre, par exemple le ministre et le porte-parole du gouvernement, qu'on ne peut pas par exemple protéger les gorilles contre les droits des populations, mais je crois que en protégeant au même moment les écosystèmes, parce que c'est tout un écosystème, en protégeant au même moment cette forêt, ces gorilles, c'est au même moment qu'on est en train de protéger ces communautés-là. Et donc, je crois que c'est dans ce sens-là. Pour revenir à cette préoccupation selon laquelle les normes environnementales seront respectées. Et je crois que c'était ça d'abord le préalable. C'était ça le préalable. avoir une étude non seulement qui démontre, si vous voulez, la faisabilité économique du projet, hein, la faisabilité sociale, l'impact social. Ce n'est pas seulement l'impact positif, il faut aussi démontrer auprès de la population, et c'est ce que veut, si vous voulez, les articles 7 jusqu'à 9 de la loi sur les principes fondamentaux liés à la protection de l'environnement. La population a droit à l'accès à l'information complète et l'information surtout pour ce qui concerne les populations qui seront affectées. Cette population a besoin de l'information, la vraie, dans le sens non seulement positif et pas seulement, par exemple, relever que les blocs vont produire autant de centaines de milliards. Il faut leur montrer qu'avec aussi ces projets d'exploitation du pétrole, voilà les ressources qui seront impactées. Les questions, par exemple, à la délocalisation de cette population-là. Et pour que cette population puisse se déterminer et donner leur position par rapport à ce projet-là, parce qu'il s'agit d'un projet d'exploitation des ressources. Et ce projet-là doit requérir la participation des communautés, la participation des Congolais. Et les Congolais doivent se prononcer par rapport à cette question-là. Ce sont les lois de la République qui le prévoient. Et je crois, dans tous ces processus, le lancement, et même tous les discours qui sont en train d'être effectués, vous serez d'accord avec nous que la population n'a pas été non seulement associée, parce qu'il n'y a jamais eu même des enquêtes publiques. Moi, je suis honoré que vous. Et on se pose la question par rapport aux informations liées, par exemple, à l'exploitation du gaz. On a vu l'autre fois le ministre des hydrocarbures, le ministre sortant, l'ancien ministre Ribes, qui était venu avec des délégations. On a vu des promesses, mais jusque-là, on n'a pas l'information. Et cette question d'accès à l'information, c'est une question essentielle et une question aussi déterminante, non seulement par rapport au principe de l'accès à l'information d'intérêt public, mais aussi par rapport même à la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles.
Monsieur Olivier Ndole, vous allez garder l'écoute. Hein? Gardez l'écoute, il est temps pour nous de donner la parole aux auditeurs et je reviens vers vous. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler au numéro 081 890 63 94 et nous vous rappellerons pour intervenir en direct.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Monsieur Laurent Mignon, vous intervenez depuis la ville de Kananga. Bonjour.
Bonjour, cher journaliste. Merci beaucoup. Je salue l'invité, je salue tous les auditeurs de Radio Okapi. Je dirais la prise en compte, la recommandation faite par la société civile environnementale, faite par le gouvernement, des maires impériens pour épargner la population environnante des espaces environnementaux et des incidents écologiques. Nous demandons au gouvernement et ceux qui désirent acheter ces blocs pétroliers et gaziers de respecter la loi en la matière et la recommandation de la société civile. Mais c'est le moment que l'achat de ces 10 blocs profite à tous les Congolais et non aux politiciens congolais. J'ai une question à poser à l'invité. Par rapport au bloc pétrolier qui a été répertorié à Kinshasa, où en est-on aujourd'hui? C'est ça un peu ma petite présentation qu'ils avaient posé à l'invité. Merci beaucoup, bonne journée.
Dites-moi, Laurent Mignon, les blocs pétroliers qui ont été répertoriés, où c'est?
Vous dites?
Les blocs pétroliers qui ont été répertoriés, où, dans quelle partie du pays?
À Kingakati, là-bas.
À Kinshasa, au plateau de Bateke.
Ah ouais. J'aimerais demander à l'invité, il peut me donner la lumière sur ce, merci.
Ok, merci. Laurent Mignon, nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kananga, au Kasaï central. Cette fois-ci, nous restons dans la même ville pour donner la parole à M. Kabuyi Kayembe, à qui nous disons bonjour. M. Kabuyi?
Oui, allô.
Allez-y. Nous parlons de l'attribution des blocs pétroliers et gaziers en RDC. Quel est votre commentaire sur ce projet?
Bon, par rapport à mon avis, je trouve très bien que c'est possible que le président de la République puisse prendre cette décision. Parce que ça part de l'économie nationale. Aujourd'hui, notre économie
est invité.
Et puis, aujourd'hui, à l'est de la République, nous avons constaté très bien que les M23 avec Rwanda ne font que piller nos ressources minières de l'autre côté. aujourd'hui, la société civile prend la décision de dire que non, ce n'est pas important, ce n'est pas opportun de pouvoir. Moi, à mon avis, je trouve que c'est pas bon. Selon moi, je trouve très bien que le mieux que le chef de l'État puisse faire appel aux personnes qui sont dotées, qui peuvent venir dans notre pays pour exploiter. Parce que j'ai un constat quant à moi. Aujourd'hui, à l'extérieur, nous avons trop de richesses dans notre pays. Nous avons des minéraux. Mais aujourd'hui, le peuple fait de souffrir. Le chômage a atteint. Un niveau très haut. C'est une souffrance pour moi, purement. À mon avis, je suis grave que le chef de l'État puisse faire appel à ces initiatives. Ces gens-là venaient dans notre pays, ils pourront vraiment créer de l'emploi et puis les jeunes Congolais pourront s'en profiter. J'ai une question à poser à notre invité. Si aujourd'hui, les gens parlent que non, ce n'est pas opportun, voilà. C'est très bien, vraiment. Je souhaite cela. Mais aujourd'hui, à l'est de la République, il y a des Rwandais qui pillent nos richesses. Quel est le rapport? Il est important que nous puissions vraiment signer un accord avec les expatriés. Parce que quand ils viennent ici, ils peuvent exploiter au finish les peuples congolais pour avoir aussi leurs gains. Et puis, il y a un taux de chômage qui a été un niveau trop élevé. Ça, c'est un cas que tout le monde oublie vraiment. Je souhaiterais que si ces entreprises arrivent ici au Congo, on peut engager des jeunes chômeurs parce qu'il y a trop de licenciés qui chôment ici. Et puis quand ils sont engagés, quand même, il y aura une stabilité. Notre économie est extravertie. Si aujourd'hui, vraiment, on voit que l'aspect négatif, ce qui n'est pas important, monsieur, il est important
Ok, merci beaucoup, M. Kabouyi. Kayembe, la liaison n'est pas très bonne, non? Avec votre téléphone, on a saisi la quintessence de votre question que nous allons répercuter à l'invité. Retournons cette fois-ci à Kinshasa pour donner la parole à M. Bienvenu. Bonjour.
Bonjour, Marcel. Bonjour, Radio.
C'est plutôt Tati au bout, au studio. Dites-nous, nous parlons d'attribution des blocs pétroliers et gaziers en RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire dans le cadre de ces projets?
Oui, Tati, j'aimerais tout d'abord commencer par féliciter le courage du gouvernement actuel qui a essayé de faire quelque chose et puis fustiger, du coup, les intentions des ONG, entre guillemets, les ONG d'environnement. Vous savez, ces ONG fonctionnent avec quels frais? Ils roulent pour les institutions étrangères. Aujourd'hui, nous savons comment est-ce que la pauvreté bat son plein au Congo. Vous l'avez posé une question très importante qu'il est parti dans tous les sens sans toutefois qu'il donne les réponses précises. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire dans le cas d'études d'impact environnemental? Il n'a pas répondu à cette question-là. Vous dites que le chef de l'État a bien déterminé que ce projet-là va respecter les normes environnementales. Il dit que c'est le discours politicien. Qu'est-ce qu'ils veulent que le chef de l'État dise ou qu'est-ce qu'ils veulent que le gouvernement actuel fasse pour qu'il comprenne? Il a touché un point encore important. Il dit que la RDC, notre pays, se veut un pays solution. Mais Tati Mapuku, restons quand même dans la logique des choses. Mm. On dit la RDC, un pays solution. On voit lorsque on finance les fonds pour l'environnement, la RDC, qu'est-ce que nous avons gagné quelque chose de consistant qui peut contribuer au développement de notre pays? Je peux prendre l'exemple de l'Afrique du Sud qui n'a pas un massif forestier aussi important que notre pays, mais l'Afrique du Sud a gagné beaucoup trop d'argent. Le Brésil a gagné beaucoup trop d'argent. On va nous dire avec des termes peut-être qui vont nous endormir, pays solution, mais en soi on n'a rien gagné. Nous sommes les maîtres de nos richesses. Toutes les ressources que Dieu nous a données, nous devons les exploiter pour contribuer au développement de notre pays. Ce discours-là paternaliste des pays occidentaux, voilà, on va faire ceci, on va faire... Et ils ont déjà développé leur pays. Et ne vivent pas dans les mêmes conditions que nous vivons aujourd'hui. Si ce projet-là doit contribuer au développement de notre pays, nous, peuple population congolaise, nous sommes derrière le gouvernement. Les ONG, là, nous savons bien qu'ils prennent les subventions, ils prennent des financements des institutions internationales pour qu'ils créent les désordres. En soi, on va voir ces projets-là disparaître comme ça, sous coupe des ONG. Ils ne parlent pas pour le peuple congolais, qui cesse de nous distraire.
Merci beaucoup, bienvenue. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Nous retournons aussi au studio avec notre invité, M. Olivier Ndole. Comment répondez-vous aux auditeurs?
Oui, merci beaucoup. Je trouve d'abord que nous avons le même dénominateur commun, c'est-à-dire et le chef de l'État, et si vous voulez, moi qui suis au studio, et même les auditeurs, c'est le développement, la création de l'emploi. et pour les organisations de la société civile environnementale, nous avons des alternatives qui ont été, si vous voulez, proposées par rapport à la correspondance adressée au chef de l'État, mais aussi au même moment par rapport, si vous voulez, à la réaction ou à la question posée par l'auditeur de Kinshasa. Mmh. Je voudrais bien souligner la première chose, c'est que l'exploitation du pétrole en RDC a commencé il y a plus de 50 ans dans le Congo central à Moanda. Je crois que si réellement l'exploitation du pétrole pouvait créer des emplois et pouvait créer, si vous voulez, un développement ou une croissance économique au niveau non seulement du budget de l'État, tout comme au niveau des communautés locales, je crois que l'indicateur serait à Moanda. Je mets quiconque à défi de me donner juste un seul indicateur de développement ou un seul indicateur de réduction.
De réduction de la pauvreté.
Réduction de la pauvreté ou de création des emplois en faveur, si vous voulez, des communautés à Moanda. Je crois, j'ai été à Moanda, c'est la pauvreté, il n'y a même pas accès à l'électricité. Et jusque-là, nous n'avons jamais été un pays exportateur du pétrole. Au contraire, c'est la famine parce que la population a été privée de ses terres. Pourtant, avant, dans les années 60, nous étions l'économie la plus forte qui était d'ailleurs loin supérieure que l'Afrique du Sud, que l'auditeur d'ailleurs a vanté en passant dans sa question. Et cette économie était basée sur l'agriculture et la pêche. Et actuellement, maintenant, cette population de Moanda ne sait même plus pêcher parce qu'on est en train d'effectuer les activités du pétrole là où on devrait faire la pêche. Alors, je pense que nous devons beaucoup plus prioriser. Les ONG de l'environnement ne sont pas ni contre, si vous voulez, le développement du pays. Et quand, par exemple, notre compatriote dit que les ONG seraient financées par des organisations internationales, je crois que notre pays, la République démocratique du Congo, y compris notre gouvernement, est aussi appuyé. Et aussi appuyé
par des partenaires internationaux.
Cela ne veut pas dire que les décisions prises par notre gouvernement ne sont pas légitimes. L'autre aspect, c'est par rapport, si vous voulez, à une étude comparative. Vous savez, par exemple, au Nigeria, si vous prenez des pays comme le Tchad, ce sont des pays qui sont réputés dans l'exploitation, si vous voulez, des hydrocarbures. Mais est-ce que si réellement le pétrole était la marque ou si vous voulez la solution pour la population, est-ce que les communautés du delta du Niger seraient actuellement en procès contre l'entreprise Shell? Je ne pense pas. L'entreprise Shell serait l'entreprise la plus chérie des communautés nigériennes.
Oui.
Est-ce qu'actuellement les Nigériens, les jeunes Nigériens qui sont en train d'être, si vous voulez, de se faire noyer en fuyant la pauvreté pour aller aux États-Unis, pour aller, si vous voulez, en Europe, ils se font noyer au niveau des mers. Est-ce que si réellement le Nigeria était développé, cela pourrait se voir. Si vous allez au Tchad, les Mbororo qui sont en train de venir pour chercher notre forêt que nous voulons détruire, ils fuient le pétrole que nous voulons vanter, ils sont en train de fuir leur pétrole chez eux pour venir chercher, si vous voulez, des herbes pour leur...
leur bétail.
Donc, par rapport, si vous voulez, au développement, je crois que nous avons des alternatives. Par exemple, je vous donne juste un seul cas par rapport à la création de l'emploi, parce que pour l'auditeur, lui comme nous, nous voulons que la République puisse créer des emplois pour les activités seulement de conservation, c'est-à-dire pour le tourisme et les activités de production de l'électricité, par exemple pour le Nord Kivu. Le seul parc national de Virunga à travers des activités, dans le contexte Covid et dans une insécurité que vous-même, vous savez très bien pour le Nord Kivu, en 2020, le parc national de Virunga a contribué au budget de l'État à la hauteur de 81 millions de dollars pour le budget de l'État. C'est-à-dire, si nous voulons créer, si vous voulez renforcer notre budget, il y a des alternatives. Il y a, par exemple, les énergies renouvelables, il y a l'agriculture. Et si vous voulez, cette économie, ce modèle économique, c'est une économie ou si vous voulez, un développement pro-pauvre. Parce qu'à la fois, on développe, si vous voulez, les énergies renouvelables, on développe l'agriculture et la pêche, et au même moment, les paysans, les communautés locales, si vous voulez, participent à la croissance économique. Elle reste avec une sécurité non seulement énergétique mais aussi alimentaire, et cette population développe des activités qui contribuent non seulement à la stabilisation mais aussi contribuent à la fois au budget de l'État pour aussi l'emploi. Il y a eu création de plus de 15 000 emplois sur ces activités là si vous voulez de liées aux énergies renouvelables et à la conservation. Même si on peut juste faire le calcul, les gorilles qu'on est en train de vilipender par exemple certains acteurs politiques. Mais si on peut faire le calcul, monsieur le journaliste, pour une visite d'une famille de gorilles, vous savez ça prend combien? C'est 450 dollars par heure, par tête, pour une personne. Si vous pouvez multiplier, si seulement le gouvernement nous donnait la paix et que nous développions des activités, si vous voulez, les activités touristiques. Les touristes arrivent dans nos parcs nationaux. Les touristes qui arrivent, si une seule personne peut nous aider dans une heure à contribuer pour voir les gorilles, et les gorilles ne sera pas tué, c'est-à-dire on l'observe seulement pendant une heure, 450 dollars. Si vous pouvez multiplier par jour, nous avons combien d'heures? Si on peut estimer que 8 heures, nous avons 8 heures de jours de prestation, c'est-à-dire dans les 8 heures, tu multiplies par les 450 dollars et tu multiplies par le nombre de touristes que nous pouvons mobiliser si nous avons la paix et la stabilité, et multiplier par an, le nombre de jours par année, qu'est-ce que nous pouvons produire? Est-ce que vous ne voyez pas que nous pouvons gagner plus qu'aller détruire tout l'écosystème? Et aussi, au-delà de la destruction de l'écosystème, nous serons obligés de délocaliser cette population qui a contribué et qui continue à contribuer sur le budget de l'État. Parce que toute l'agriculture, cette pêche-là que nous effectuons, c'est ce qui a fait de la RDC ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce sont ces millions de dollars. Par exemple, il y a des procès. Nous saluons l'IGF qui nous a fait des révélations, le chef de l'État, par rapport à la lutte contre la corruption. Ces procès, quand nous attendons les millions qui sont détournés, mais ce ne sont pas des millions ici des activités pétrolières. Ce sont des millions.
Monsieur Olivier, gardez l'écoute. Nous retournons au standard. Nous allons revenir à vous. Ne quittez pas le téléphone. On retourne au standard pour donner la parole aux auditeurs. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous au numéro 081 890 63 94.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Merci de rester branché à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Allons cette fois-ci à Kolwezi. Allons à Kolwezi pour donner la parole à Claudia. Bonjour. Madame Claudia, vous êtes en ligne? Bon, la liaison n'a pas marché. Le temps pour la réalisatrice de s'occuper de Madame Claudia, dont la communication qui a quitté la ligne. Monsieur Manuel Moussouyou, vous êtes avec nous ici au studio. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Tati.
Enfin, les appels d'offres ont été lancés. 30 appels d'offres, dont 27 pour le bloc pétrolier et 3 pour le bloc gazier. Ces appels d'offres ont été publiés le 28 juillet dernier par le président de la République. Dites-nous, la société civile n'est pas du tout chaud sur cette initiative.
Effectivement, la société civile estime qu'il y a des meilleures solutions que le gouvernement devra apporter pour sa population et pour le pays.
Lesquelles, par exemple?
Que de se lancer justement dans les blocs pétroliers. J'ai écouté mon collègue qui était en train de parler de toutes les alternatives en termes de tourisme, de toutes les alternatives qu'on peut trouver en termes d'agriculture. Comme vous le savez, il y a quelques années, la RDC s'est débrouillée bien ou s'en sortait très bien dans le secteur agricole où on produisait le cacao, le café, etc. Mmh. Et donc, ce sont des choses qu'on a oubliées alors que ce sont des alternatives assez importantes. À l'époque, les personnes qui avaient beaucoup d'argent en RDC, c'était des gens qui étaient dans le secteur agricole. Mmh. C'est des fermiers et c'est ça qui apportait beaucoup plus aussi l'argent. Donc, pour dire que aujourd'hui, avec la possibilité de développer les énergies renouvelables, en tout cas, ça reste une des alternatives la plus crédible que nous pourrons voir le gouvernement à aborder. Donc, les blocs pétroliers, oui, on estime que ça pourra apporter plus de 200 000 milliards de dollars, mais ça reste hypothétique parce que déjà aujourd'hui, je pense que les auditeurs doivent comprendre que le marché des hydrocarbures est en train de perdre sa valeur. Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, avec tous les engagements qui sont pris depuis l'accord de Paris et peut-être bien avant et jusqu'où nous sommes en train d'aller, c'est que les pays s'engagent de plus en plus à désinvestir dans les énergies fossiles et à mettre beaucoup plus de moyens dans les énergies renouvelables. Et donc, ce qui a comme conséquence aujourd'hui, c'est que même certains projets du pétrole ne sont plus financés en 2022. Ça veut dire que si les blocs pétroliers ont été lancés il y a quelques jours, on ne peut pas, parce que l'exploitation normale va varier entre pourvoir le premier baril peut prendre jusqu'à 18 ans, et donc il faut s'imaginer que le premier baril pourrait être sorti des terres je pense en 10 ans au moins,
2032,
plutôt 32, 35, 40, etc. Et donc il faut se poser la question même sur le marché, parce qu'on parle de 200 000 milliards aujourd'hui alors que sa valeur n'est plus il y a maintenant des questionnements autour de ce que ça peut rapporter le secteur des hydrocarbures. Donc dans 15 ans, dans 10 ans, il faut s'imaginer que le scénario sera assez compliqué pour des investissements dans le secteur. Alors, c'est comme ça que nous disons, oui, est-ce qu'il y a eu des bonnes réflexions ? Parce que ceci peut nous amener dans ce que nous appelons les actifs échoués. Donc il y a eu des investissements dans un secteur et que cela n'a pas rapporté. Dans l'entretemps, comme vous le savez, s'il y a de problèmes de financement, s'il y a de problèmes de dettes, c'est la population qui est appelée à payer. Vous allez vous souvenir de tout ce qu'il y a eu dans le cadre du projet Inga à l'époque. Construction du barrage Inga, construction de la ligne de transmission Inga-Chaba, mais aussi d'autres investissements comme la RTNC, etc. Cela avait apporté une dette énorme pour le pays, n'est-ce pas? Et cette dette a été payée par les populations parce que jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir parce qu'il était question d'annuler certaines dépenses sociales pour que cela nous aide à payer la dette. Pour dire que c'est la population qui est toujours chargée à payer une dette. Donc sur le plan économique, nous estimons que, n'est-ce pas, ces investissements ou le lancement des appels d'offres risquent d'être hypothétiques et ça peut nous amener dans ce que nous appelons actifs échoués.
Monsieur Manuel, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, Corap en sigle. Et vous avez mis en place aussi un mouvement, un réseau d'ONG pour dénommé Dynamique Polet, dans lequel vous travaillez pour les activités en faveur de la population congolaise. La dame la ministre a dit qu'il ne suffit pas de contempler nos ressources naturelles. Nous devons aussi tirer profit de ces ressources naturelles, selon Mme Eva Zaïba, ministre de l'Environnement et Développement Durable. Comment réagissez-vous, face à cet argument?
Oui, ce que nous pouvons dire, c'est que Mme la ministre, je pense qu'actuellement, elle est en train de véhiculer un message qui est assez important pour dire que voilà, la RDC est le pays solution. Nous saluons cette réflexion et nous pensons que c'est cela. La RDC a toutes les ressources qu'il faut. La RDC a des forêts, a de l'eau, a tout ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, effectivement se présenter comme pays solution. Alors, Madame la ministre a aussi dit que l'exploitation pétrolière qui sera faite, n'est-ce pas, va respecter l'environnement. Et moi, je mets quiconque à défi pour dire qu'aucune exploitation pétrolière dans le monde, n'est-ce pas, nous a amené à été fait, au fait, dans le respect du développement durable ou dans le respect de l'environnement. Déjà, par le fait que extraire le pétrole, déjà j'ai donné un exemple récemment où aux États-Unis le type d'extraction ou le type de projet pétrolier dans lequel nous voulons nous lancer, les États-Unis a pris l'engagement de laisser cette exploitation pétrolière sous le sol d'ici 2024. Donc dans 2 ans, les États-Unis vont abandonner l'exploitation du pétrole en allant vers le sol et en détruisant la roche pour avoir le pétrole. Ça, c'est une chose. Les États-Unis s'est engagé d'abandonner complètement l'exploitation pétrolière d'ici 2040. Vous comprenez? Et Madame la ministre pense que la RDC peut se présenter comme pays solution en même temps comme pays à problème. Parce que le problème pour lequel le monde est en train de se battre aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas,
la lutte contre le changement climatique.
La lutte contre le changement climatique, et ce changement climatique est causé par des activités qui contribuent, n'est-ce pas, à la pollution.
Oui.
Et donc ces activités principalement, c'est aussi les hydrocarbures et de par le monde. Mmh. Alors comment est-ce qu'on sera pays solution en même temps et pays à problème d'autre part? Donc nous estimons que ce discours est contradictoire. Donc nous invitons justement Madame la ministre, parce que c'est elle qui est censée protéger l'environnement. C'est elle qui est censée lutter contre toutes ces activités qui ne pourront pas bénéficier à l'environnement et à la population congolaise dans l'avenir. Parce que
Je reviens à vous. Okay. Le temps pour donner la parole aussi aux auditeurs. Hein. Monsieur Safari, il est à Iga Barrière. Non, il est plutôt à Bounia. À qui nous disons bonjour?
Bonjour. Je vais dire que je suis toujours à Iga Barrière.
Iga Barrière en Ituri. Ok.
Oui, en Ituri, bien sûr.
Allez-y.
Donc, par rapport à l'émission, je crois que cette offre d'emploi qui était lancée, apparemment, monsieur Lévité, il me semble que ça montre déjà un avantage. Donc, apparemment, l'espoir revient du fait que le Congo pourra se développer. Mais le désespoir revient là où j'écoute. Un invité qui dit que à moins on avait déjà commencé il y a de cela, je ne sais pas, c'est quatorze années, mais il n'y a pas eu trop de changements quant au développement du Congo. C'est là où le désespoir revient. Mais je dirais, c'est une recommandation. Est-ce que le gouvernement pourra cette fois-ci donc faire revenir l'espoir dans le cœur de Congolais, comme ça qu'on puisse au moins espérer quant au développement du Congo. C'est ça une contribution que j'avais pour l'émission. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Safari. Je rappelle que vous intervenez depuis Iga Barrière en Ituri. Retournons cette fois-ci à Kikwit pour donner la parole à Étienne Didier Kalongi. Il est à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, mon frère.
Allez droit au but, nous parlons de l'attribution des blocs pétroliers. La liaison? Ah d'accord, ok, c'est bon. La réalisation va s'atteler à relancer M. Étienne, la liaison s'est interrompue. M. Olivier, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, M. le journaliste.
Comment répondez-vous à l'auditeur qui nous a appelé de l'Ituri à Iga Barrière?
Je pense que si vous l'avez suivi très bien, sauf que la ligne était un peu perturbée, mais il pose quand même des inquiétudes et des questions qui sont fondamentales. Parce que c'est vrai, les discours ou la communication faite par le gouvernement montre qu'avec l'exploitation du pétrole, il y aura directement le développement. Mais par rapport, si vous voulez, à la solidité ou même, si vous voulez, la longueur dans le temps des questions d'exploitation du pétrole, et surtout que, parce que si on fait la telle d'offre, ce sont les multinationales qui viendront faire l'exploitation du pétrole. Et je pense que cela doit être communiqué aux Congolais pour que les Congolais puissent avoir accès à la vraie information. Je pense que les Congolais de l'Ituri, ils doivent comprendre que, par exemple, pour l'Ituri, il y a le bloc 4 qui est là, et qui prend presque tout le lac Albert. Le lac Albert qui constitue, si vous voulez, une assiette importante pour non seulement la contribution au budget de l'État, une assiette qui est inépuisable, qui est durable, parce que, comme vous le savez, avec la pêche, avec l'eau que nous avons, et avec, si vous voulez, même les trafics en termes de transport, c'est beaucoup plus à la fois utilisé par la population, mais au même moment, ça contribue au budget de l'État. Et je pense que la question posée par l'auditeur, c'est un format d'inquiétude. Il nous rejoint, si vous voulez. C'est-à-dire, nous persistons et nous disons que l'exploitation du pétrole par rapport aux arguments tels que développés par les collègues Emmanuel, et l'exemple, si vous voulez, de Moanda, l'exemple d'autres pays tels que nous l'avons cité, l'exploitation du pétrole ne pourra pas contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Et je pense les exemples d'autres pays qui n'ont pas réussi à faire décoller leur économie et qui ont détruit. Parce que, par exemple, pour le Nigeria, savez-vous que les sols dans les détails du Niger, précisément dans la communauté de Ogoniland. Dans Ogoniland, il y a eu tout un état de rivières et de lacs qui ont disparu à cause de l'exploitation du pétrole. Et le sol a été pollué jusqu'à 7 mètres de hauteur. Et jusqu'à présent, la population ne sait plus faire les activités agricoles. Et du coup, Shell est parti avec des milliards de dollars. Et c'est la population qui est restée la plus pauvre. C'est-à-dire, l'économie pétrolière fait en profiter aux acteurs politiques. C'est vrai, ceux qui veulent vendre, si vous voulez, les blocs pétroliers. Et c'est vrai, il y aura peut-être des cash. Mais je me demande, je me pose la question, est-ce que si on donnait des fonds à ce gouvernement actuel, sur base, si vous voulez, de toutes ces concessions-là, sommes-nous d'avis que nous aurons même 10 ans avec les mêmes fonds qui seront débloqués? Et je pense que nous pouvons beaucoup plus mieux gagner et contribuer au budget de l'État avec les alternatives telles que développées, notamment la pêche, l'agriculture, et ces activités qui peuvent être fondées, si vous voulez, sur les énergies renouvelables, si vous voulez, les économies vertes, peuvent marcher de pair, c'est-à-dire, et la population, parce que quand on parle de l'État, je pense que nous avons tendance, surtout certaines personnalités, quand ils ont un mandat public, ils ont tendance à confondre leur position, leur personnalité avec l'État congolais.
Oui, monsieur Olivier, s'il vous plaît.
La population,
monsieur Olivier, s'il vous
plaît. Le gouvernement.
Oui,
et
oui.
Je pense que nous pouvons gagner tous, nous pouvons contribuer au budget de l'État, aider le gouvernement à avoir de l'argent et au même moment rester stable sur nos terres si on développe des activités qui rentrent dans la vision du chef de l'État à qui, selon lequel, nous voulons faire de la RDC un pays solution et nous voulons faire une diplomatie verte telle que, comme vous le savez, d'ailleurs, le ministère a été rehaussé, si vous voulez, à la vice-primature.
Oui.
C'est parce que nous voulons beaucoup plus nous imposer sur des questions de justice climatique. Et je pense que des négociations sur cet aspect-là peuvent aller dans le bon sens et, par exemple, développer cet aspect de polluer, payer. Pourquoi le gouvernement ne peut pas, par exemple, exploiter aussi cette voie-là et pourquoi aussi développer d'autres alternatives? Parce que non seulement nous avons des exemples qui ont marqué des échecs, Moanda est là, c'est un exemple patent, et aussi nous avons des exemples qui ont réussi, Virunga est là, Virunga avec l'énergie, avec les emplois, c'est un exemple vivant à République démocratique du Congo. Même d'autres pays qui ont développé le tourisme peuvent nous donner, si vous voulez, des alternatives et peuvent nous donner, si vous voulez, d'autres voies de sortie pour relancer l'économie, parce que c'est ça le dénominateur commun.
Merci beaucoup, nous monsieur Olivier, s'il vous plaît. Monsieur Olivier, s'il vous plaît, nous avons deux auditeurs au standard qui attendent. Hein. Je leur donne la parole, puis nous allons vous revenir à vous. Nous allons commencer par madame Claudia, elle est à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour au Capi Service.
Allez droit au but, on n'a plus assez de temps. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant le sujet que nous sommes en train de débattre?
Oui, je voulais savoir si tous les 32 blocs pétroliers sont situés sur les aires protégées et aussi si l'exploitation de tous ces blocs présente les mêmes sensibilités. Et aussi une question, je voulais savoir les deux blocs pétroliers situés par Dan Biersler ont été exploités pendant combien d'années?
Merci beaucoup, Madame Claudia. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kolwezi. Cette fois-ci, allons à Lubumbashi pour donner la parole à Franck, à qui nous disons bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Allez droit au but.
Oui, moi, je ne suis pas d'accord avec notre invité parce que je pense que tous ces ONG ici travaillent pour le compte de ceux qui sont en train de combattre. Comment est-ce qu'on peut protéger les airs ou bien l'environnement, et on ne sait pas protéger la population. C'est inconcevable. Alors, jugez vous-même. est-ce qu'il faut protéger l'environnement, on détruit la population. Quand ils demandent que nous devons exploiter beaucoup plus le tourisme, dans quel pays on va, dans quel environnement on va exploiter le tourisme? Dans la guerre. Avec cette guerre, qui viendra faire le tourisme chez nous? Donc je pense que tous ces ONG doivent comprendre que non, notre pays a beaucoup plus de
solutions. Oui, mais M. Franck, on n'est pas dans une situation de guerre généralisée. Non, il n'y a que des poches noires.
Mais là où il y a les blocs pétroliers, c'est là où ils sont en train de prendre l'environnement. Et on a besoin de l'argent. Ces ONG-là, quel jour ils ont déjà défendu? Aujourd'hui, on nous a privé d'acheter des armes. Quel jour ils se sont entendus pour dire, dénoncer tout haut que non, le pays manque d'armes, les pays peuvent défendre leur pays, plutôt, le pays doit défendre notre environnement avec la guerre. Aucun ONG a déjà dit ça, a déjà dénoncé ça. Mais pour l'environnement, pour le compte de tous ces blancs-là, ils sont montés tous au créneau pour demander qu'on ne puisse pas exploiter. Moi, j'ai dit non et nous encourageons le gouvernement d'exploiter ce pétrole-là si c'est pour l'intérêt des Congolais. Merci.
Je vous en prie, M. Franck. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. M. Emmanuel, comment répondez-vous à nos des auditeurs là?
Alors, merci beaucoup. Je salue toutes les interventions. Et peut-être pour commencer à parler de questions de Madame Claudia qui était si claire et précise, je pense que à sa première question, la réponse est que tous les blocs pétroliers ne sont pas dans des aires protégées. Tous les blocs pétroliers ne sont pas dans des parcs. Mais ce qu'il faut noter, c'est que une bonne partie des blocs pétroliers se trouve dans des parcs. Une autre bonne partie ou carrément dans des aires protégées, parce qu'il faut voir du côté est, il y a tout ce qu'il y a comme parc de Virunga, etc. Il y a le côté Tanganyika où il y a le parc de Upemba et bien d'autres. Alors, une autre chose qu'il faut dire, c'est que M. Olivier a essayé de dire, c'est que la plupart des blocs pétroliers se trouvent dans des espaces où vivent les communautés locales. Dans des espaces où il y a des activités agricoles, où il y a des activités, la pêche, la chasse, etc. Et c'est ça, en fait, le risque. On est d'accord, le gouvernement doit trouver des solutions pour éradiquer
lutter
contre la pauvreté, oui.
C'est la vie des Francs, de Lubumbashi.
Effectivement, on est d'accord avec ça. On ne peut pas être contre, n'est-ce pas, toutes les initiatives qui aident à sortir le pays de ce gouffre. Nous vivons, nous circulons de par le pays. On voit la pauvreté. Mais le problème, c'est que si les choses ne sont pas coordonnées, déjà, je pense qu'on parlait, Olivier parlait des violations de certaines lois. Par exemple, la loi sur l'environnement, portant principe fondamental de l'environnement, dans ses articles, stipule que ces genres de projets ne peuvent pas commencer. Ces appels d'offres ne peuvent pas être lancés s'il n'y a pas une consultation publique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de la consultation? Donc, toutes ces communautés qui seront impactées doivent normalement avoir l'information, savoir qu'est-ce qui va se passer.
Des consultations sociales auprès de la population.
De la population et de toutes les parties prenantes pour savoir qu'il y a tel projet. Donc, pour dire que c'est pas toutes qui sont dans les aires protégées, mais bien qu'une bonne partie se retrouve dans des aires protégées et une autre bonne partie, c'est dans des milieux communautaires. Alors, une autre question qui était de savoir si tout était sensible, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, c'est pas partout où c'est sensible, parce que nous disons que la ministre dit qu'il faut, elle est garant, en fait, de voir comment est-ce que les choses se développent dans le développement durable. Le développement durable dit que il faut voir les intérêts de ceux qui sont en train de, voilà, qui vont bénéficier de ce projet aujourd'hui et demain. Est-ce que exploiter les 30 blocs qui soient gaziers ou pétroliers, tous les blocs au même moment, est-ce que cela nous ramène, n'est-ce pas, à ce principe de développement durable?
Monsieur Manuel, on est presque à la fin de cette tranche. Dynamique Polet a lancé une initiative. Est-ce que vous avez saisi les autorités pour faire toutes ces revendications?
Effectivement, nous avons adressé une lettre ouverte au chef de l'État où nous avons posé toutes les problématiques autour de cette question. Et nous sommes confiants que le chef va écouter parce qu'il est là pour écouter le peuple. Mais peut-être pour dire rapidement, il y a la question sur l'amalgame au fait que notre ami a fait entre protéger l'environnement et protéger la population. Protéger l'environnement, c'est justement protéger la population. Nous n'avons pas inventé quelque chose.
Nous faisons
le gouvernement lui-même, le gouvernement lui-même est conscient de cela, a pris des engagements. À la COP 21, à la COP 26, à la COP 27. D'ailleurs, il va se présenter comme pays solution. C'est parce que il dit qu'il va tout faire pour protéger notre environnement, lequel environnement va protéger la population. Donc, la société civile et les ONG ne travaillent pas pour les blancs, travaillent pour l'intérêt de la population. Et ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'aborder toutes ces questions avec beaucoup plus de responsabilité que de les aborder avec beaucoup d'émotion, en brisant même certains principes que eux-mêmes sont porteurs. Parce que nous, nous n'inventons rien. Et donc, nous invitons le chef de l'État, justement, qui a, je pense, lu la lettre ouverte que nous lui avons adressée, où il y a toutes les préoccupations. Notre souci, c'est de voir le gouvernement répondre efficacement à toutes ces préoccupations pour que cette exploitation puisse être faite, si seulement ça n'est le cas, dans les meilleures conditions et que cela soit au bénéfice de la population. Parce que, de par tous les tableaux présentés, on ne voit pas où on va trouver le bénéfice de la population congolaise, si ce n'est que le malheur dans les jours à venir. Donc Inga aujourd'hui nous donne de l'électricité, mais n'oubliez pas que Inga fait partie des projets qui nous ont cloués au sol. Et donc nous ne voulons pas aujourd'hui, avec toutes les connaissances que nous avons, voir le gouvernement s'engager dans des projets qui vont se retourner contre le pays, et cela ne sera pas responsable de notre part.
Nous le considérons comme votre dernier mot. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, Courap en sigle. Nous disons également merci hein, à monsieur Olivier Ndoole, qui est membre de l'ACDH Goma, qui a intervenu au niveau du téléphone. Merci à vous deux. J'espère que c'est pas la dernière occasion. Il y aura aussi d'autres rendez-vous dans lesquels nous allons vous inviter pour débattre des sujets qui concernent les domaines l'environnement, des domaines qui concourent au développement de la population. Merci, à la prochaine occasion.
C'est nous qui vous remercions, M. Tati.